Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce sont des chiffres alarmants, des prévisions qui laissent craindre que 2019 sera une année noire pour la police, comme 1996, où on a compté 71 suicides parmi les officiers de police. Depuis le début janvier, en effet, 24 policiers déjà se sont donné la mort. Traditionnellement, le taux de suicide dans la police est 3 fois plus élevé que chez les gens en général, mais là, c'est encore plus. Hier d'ailleurs, le syndicat Alliance Police Nationale tenait son 9e congrès à Provins, en Seine-et-Marne. Sur son site, l'organisation s'est félicitée des mesures annoncées par le ministère de l'Intérieur pour la prévention du suicide, comme la création d'une cellule alerte prévention suicide 24 heures sur 24, l'amélioration des conditions de vie et de travail pour diminuer les risques psychosociaux et l'instauration d'un management participatif. Et d'autres mesures d'ailleurs. Évidemment, le mouvement des Gilets jaunes a été explicitement mis en cause dans ces chiffres alarmants de début d'année. À ce sujet, on n'oubliera pas, j'espère, les mots de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à la fin du mois de novembre, à propos des violences commises en marge des premières manifestations. Face à la commission des lois de l'Assemblée nationale, il a dit, je l'ai vérifié et revu plusieurs fois sur LCP, je cite, « Ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer les forces de l'ordre ». Fin de citation. Le message adressé aux policiers pour les manifs à venir était donc clair. En face de vous, vous avez donc des gens animés de la volonté de vous tuer. Et à ce moment-là, que se dit le policier en gros, c'est eux ou moi ? Et que se répond-il ? Je vous laisse en juger. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, deux histoires de policiers qui, heureusement, ne sont pas allés jusque-là, ni tuer, ni se tuer, et ont préféré quitter la police pour des raisons fort différentes. Des récits racontés par Olivia Muller.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Yann Persuglio. J'habite en banlieue aixoise. J'ai été élevé par des parents dans un milieu modeste. J'avais un père qui était un peu dur, mais qui m'a inculqué des valeurs. Et ces valeurs, c'était le bien, voilà, sans arrêt, le bien. Et quelque part, mon père qui, pour moi, était quelqu'un de... C'était une montagne, hein, c'était quelque chose d'impressionnant. J'ai vite compris que le métier de policier, c'était un métier qui l'impressionnait. Donc j'ai toujours voulu faire ce métier pour impressionner mon père. Voilà. J'ai fait ce métier plus pour lui que pour moi, en fait. J'ai débuté en étant policier auxiliaire. J'avais 18 ans et demi, je crois. Et j'étais muté aux Ulysses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais les Ulysses, c'est uniquement des cités, du béton. Et pas de centre-ville. Le seul centre, c'est le centre commercial. Et quand vous avez 19 ans, que vous rentrez dans une voiture de police, c'était quand même en 1990, il faut savoir que le plus vieux dans la voiture avait à peu près 23 ans ou 24 ans. Et quelqu'un qui avait 24 ans, qui était chef de bord, c'était quelqu'un de sérieux, hein. C'était un ancien en fait. Donc on intervenait sur tout, hein. Police secours, vous intervenez sur un braquage en cours, sur un accident, sur un suicidé, sur un meurtre qui vient d'être fait, sur tout ce qui se passe sur la voie publique. Hein. Donc ça peut aller très loin. Après 10 mois de formation dans une école de police, on vous met de suite dans des banlieues avec des problématiques peut-être un peu compliquées, quoi. Après, moi, je venais de Marseille. J'étais pas un lapin bleu, on va dire. Mais vous prenez un jeune qui sort de Corrèze, qui a jamais rien vu, vous le mettez dans le 9-3, ça risque de lui faire tout drôle, quand même. Les deux premières années à Paris, je me suis dit, tiens, c'est ça la police, c'est un peu bizarre quand même, je suis un peu tout seul face à tout ça là, ma hiérarchie elle est pas là pour m'aider, c'est bizarre, on me demande beaucoup, c'était sous l'époque Mitterrand, on nous demandait de faire des PV quand même, donc la culture du chiffre elle existait déjà à cette époque, et attention, on fait des PV sinon t'es pas titularisé. Et là, je me suis dit, c'est un coup pour rien, c'est peut-être Paris, c'est peut-être pas ton truc, tu vas aller voir un peu à Lyon ce qui s'y passe. Et puis bon, je commençais à comprendre qu'avec mes petits bras musclés, j'allais pas sauver la planète, même à Lyon. Parce que c'était la même histoire, on vous demande beaucoup de choses avec peu de moyens. Donc je me suis dit, tu vas aller voir Marseille. Moi, j'idéalisais Marseille, parce qu'en plus, Marseille, là, être policier à Marseille, c'était quelque chose. J'ai toujours été attiré par les faits divers, par la voyoucratie marseillaise, c'est la French Connection, tout ça. Je me languissais d'être confronté à ce banditisme, on va dire. Donc quand je suis arrivé à Marseille, j'ai fait un an de police secours. Ensuite, j'ai intégré un autre service qui s'appelait le CARNOR. C'était une sorte de mini état-major. Jusqu'au jour où j'ai croisé des collègues qui travaillaient à l'unité d'investigation de secteur nord. Et puis voilà, je leur dis, oh les gars, j'aimerais bien faire ce métier. Et puis j'ai été pris. Et là, il y a un deuxième chemin qui s'est ouvert à moi. L'enquête judiciaire, la fameuse. Alors là, c'est la double gifle. Très rapidement, 2 ans d'enquête judiciaire, voilà, j'ai compris que c'était du vent tout ça en fait. On faisait du vent. J'étais dans un groupe flagrant délit, on appelait ça un groupe flag. On était sur le secteur nord de Marseille, on était 8. Et on arrivait le lundi matin, on avait peut-être 20 mecs au frigo, comme on disait, 20 mecs en garde à vue, on s'occupait des 20. Et puis bon, on était soudés, il y avait une très bonne ambiance. Et pourtant, on travaillait sur du sombre hein, à longueur de journée. Et dans ce métier-là, vous pensez être au fond, et en fait, non, il y a toujours plus profond dans le sombre. Vous voyez la mort, et dans des conditions extraordinaire et malheureusement à tout âge. Et une fois que vous avez fini, que vous rentrez chez vous là, ben vous restez avec votre album photo. Donc il y a vraiment intérêt à souffler, à... Donc voilà, c'était l'humour. J'étais quand même assez clown, hein, j'ai toujours aimé faire rire, donc il y avait une très bonne ambiance et on était bien, on était une bonne équipe. Mais voilà, pour moi, la haute hiérarchie, c'était après mon commandant. Donc ça a commencé au commissaire divisionnaire et au directeur. Où là, on est dans la politique pure. Et là, c'était l'époque de la politique du chiffre. Et ça commençait à m'énerver parce que moi, j'aimais les enquêtes judiciaires. Et là, c'était, on veut des interpellations, mais on veut des affaires élucidées. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme affaire très simple à élucider ? Eh bien, le petit jeune qui a une barrette de shit sur lui, par exemple. On me demandait de faire 10 affaires de 10 jeunes qui étaient interpellés avec une barrette de shit. Pourquoi ? Parce que ça faisait 10 interpellations et 10 affaires élucidées. Beaucoup de ventes pour pas grand-chose. Sauf que sur mon bureau, j'avais d'autres affaires bien plus graves. Des affaires de violence, notamment, avec des ITT de plus de 8 jours, vous voyez. Ben, je pouvais pas travailler dessus parce qu'on me demandait de faire ces 10 jeunes-là. Et puis, cette affaire-là, quelque part, si je la sortais, on allait interpeller un gars, on aurait fait des réquisitions judiciaires. Je sais pas, ça coûte du fric, tout ça, l'ADN, les traces papillaires, ça coûte du fric. Pourquoi ? Pour une interpellation ? Mais non, t'en as 10 là, ils sont contre le mur, ils sont pas gentils là. C'est pas plus simple. Eh ouais, c'est plus simple pour tout le monde. Mais pas pour moi, vous voyez ? Là, psychologiquement, ben, mon idéal était entaché là. Je suis pas rentré dans les flics pour ça, moi. Donc, oui, j'étais pas utile. J'ennuyais même les honnêtes personnes. C'est plus qu'être inutile. Il y a encore un monde là. Et ouais. Et normalement, je vous le dis, les policiers, tous, on aurait dû arrêter à cette époque de mettre des PV, de cautionner cette culture du chiffre. On aurait dû arrêter. D'aller uniquement sur l'appel 17 pour sauver des gens qui étaient dans la merde, mais point. Je vais vous dire pourquoi les policiers contestent pas. Vous savez pourquoi ? On a tous notre petit galon à prendre. On attend tous notre petite mutation. On attend tous d'être tranquille à la retraite. On attend tous notre petite lumière, notre horizon. Là. Et on voit petit. Et on est capable de faire beaucoup de choses pour gagner 200 euros de plus par mois. Écoute, moi je veux pas être emmerdé. Je vais faire mon travail. Et puis c'est tout. Hein. On accepte tout, quoi, à la fin. Pour être tranquille et pour être à l'aise dans son mensonge, il faut arriver à se mentir à soi-même, en fait. Voilà. On reste parce que ça devient de l'alimentaire et on est enfermé. On ne peut rien faire d'autre. Voilà. Moi, j'ai jamais vu un collègue heureux dans sa vie de flic. Et le problème dans ce métier, c'est que Dès que vous commencez à réfléchir, c'est le début de la fin. En fait, vous êtes un fonctionnaire, vous êtes là pour fonctionner. Point. Si vous réfléchissez, il y a deux solutions. C'est soit vous quittez la police, et soit vous finissez par mâcher le canon d'une arme. Suicide ou alors problème psychologique, problème d'alcool, problème de drogue, problème de... On finit mal. C'est pas un métier dans lequel on va dire « Oh les gars, je vais pas bien. Vous allez passer pour qui ?» C'est un métier un peu machiste, hein, faut le dire. On va se foutre de votre gueule. Hein. Il fallait pas montrer son point faible. Surtout pas. Dans notre groupe, on avait des femmes. On avait Joss et Marie. C'était les mamans du groupe. Quand ça allait pas, on allait voir Joss. On pouvait pas le faire avec des mecs. À mon époque, il y avait entre 50 et 52 policiers qui se suicidaient dans l'année. Un suicide par semaine. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 22 suicides depuis le 1er janvier. Ça veut dire un policier qui se suicide tous les 4 jours. Et à une époque, il y a une vague de suicides. On nous a octroyé un numéro, un 0491. On nous l'a mis contre le mur de notre service. Si vous avez un problème psychologique, il y a une permanence. Moi, j'ai un collègue, il a appelé. Hein. Bon, déjà, le soir, ça marchait plus, et le week-end non plus. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une femme formidable, d'avoir des enfants, d'avoir des amis. Mais un collègue qui n'a pas ça, qui vit ce métier, qui sent l'enfermement, qui est différent, qui d'un coup se met à réfléchir, ben, peut-être que s'il a un accident de vie, s'il a un enfant malade, s'il a un divorce, s'il a voilà, quelque chose qui se passe dans sa vie et qui va commencer à lui faire plier un genou, je vais vous dire, ça peut aller très vite. Hein. Moi, mon malaise, c'était le manque de reconnaissance dans ce métier. Tu n'es que matricule, tu dois rendre compte au parquet d'une affaire. Hein. Mais psychologue, tu te le payeras, ou tu verras quand tu auras 2 minutes. J'étais pas bien, j'étais tendu. J'étais énervé et je me disais mais je vais pas finir comme ça, je vais pas finir, déjà je voulais pas ressembler aux collègues qui partaient à la retraite. Ils ressemblaient à des mecs aigris et malheureux dans leur cœur. Non, c'est un métier qui vous bouffe. Donc je me suis dit je veux pas rester là. Donc vous avez été policier pendant 18 ans, vous partez de là, vous faites quoi? Vous allez faire vigile dans un magasin? Non. Je disais que je voulais partir à tout le monde, mais tout le monde rigolait. Et en plus, j'étais quelqu'un avec beaucoup d'humour, donc je faisais rire tout le monde sans arrêt. Et je disais, je vais me casser, les gars. Oui, oui. Mais j'étais très bien dans ma tête parce que j'avais pris la décision de partir. Maintenant, je vais faire quoi? Donc, j'ai intégré une banque spécialisée dans la création et la gestion de patrimoine. Et j'ai accepté de gagner le SMIG et d'être rémunéré un peu plus si jamais je devais vendre des produits financiers. J'étais prêt à faire n'importe quoi. Mais la banque m'a rappelé en me disant « On ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas le bac. Et pour vendre des instruments financiers, il faut le bac. » Ah, mince. Donc, j'ai fait rire tout le monde en disant « Les gars, ils ne me prennent pas parce que j'ai pas le bac. Ben, je vais passer un bac. » Donc, j'ai passé un bac dans les 6 mois en VAE, en faisant une VAE. Et du coup, j'ai eu mon bac. Donc, je suis retourné voir le directeur de la banque avec un bac en poche et je lui ai dit « Voilà, on y va maintenant. » Je suis retourné au service, j'ai dit « Les gars, j'ai trouvé. » Je leur ai expliqué, ils m'ont dit, va voir un psy. Yann, tu es fou, tu es fada ou quoi? Tu vas où, là? Tu vas arrêter la police pour gagner le SMIC dans une banque, là? Mais tu es fou, quoi? Donc je suis allé voir le psy. Et elle m'a dit, mais vous avez raison de partir. En gros, j'ai compris que c'était pas moi le fou, hein, c'était les autres, hein, de rester. On est très peu à démissionner. On part pas de la police. On part pas, on parle pas, et on vous aide pas, hein. Ce devoir de réserve n'est pas là pour rien. Ça. Et c'est vrai que quand j'en suis parti, je l'avais dit à des collègues, j'ai un peu l'impression d'être dans un bateau qui coule et d'être le rat qui part en premier. C'était l'impression que j'avais, j'ai presque honte. Mais il fallait que je parte. Voilà. Et là aujourd'hui, je me rends compte, et tous me le disent, hein, t'as bien fait de partir Yann, hein, parce que ça a empiré, ça va pas dans le bon. Quoi. Donc je suis heureux d'en être parti et j'avais vu juste en fait. policier, c'est un métier extraordinaire, mais il faut pas le faire. J'ai compris un truc maintenant que j'ai passé le mur, je suis rentré dans la vie civile. Tout ce que j'ai vu pendant 18 ans, je pensais que la société était comme ça. C'est-à-dire, vous prenez une page blanche comme ça, vous coupez un petit bout. Ce petit bout-là, ben, je pensais que c'était la page blanche. Et moi, je vivais là-dedans, et je vivais dans ce petit bout, et il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait que du sombre, il n'y avait que du noir, il n'y avait que de la délinquance, il n'y avait que de l'injustice. Mais en fait, quand vous partez de la police, vous vous rendez compte que ben, la société, elle est bien faite, en fait. Moi, je vois plus tout ça. Par contre, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas le même homme si j'étais resté. Et j'invite tous les collègues qui ne sont pas bien dans leur tête et qui en ont marre de ce métier. J'ai envie de leur dire, si vous n'êtes pas bien, il y a toute une vie à vivre. Dehors, il y a du boulot. Il ne faut pas avoir peur de partir. Si vous n'êtes pas bien, partez. Il faut juste en vouloir, il faut juste être courageux. Vous allez souffrir, ça ne va pas être simple. Mais il y a des choses à faire. Et contrairement à ce que j'imaginais, quand vous quittez la police, dehors, les gens vous apprécient en fait. C'est bizarre. Hein. En fait, vous avez le respect.
France Culture, les pieds sur terre.
Pendant mes études, je m'ennuyais beaucoup et je cherchais souvent une voie, une débouchée, un travail que je pourrais faire après mes études. Et je voyais à la télévision qu'il y avait des reportages sur la police, qui fait un peu briller les yeux, où on voit des gens qui ont l'air de faire quelque chose d'utile, quoi. Et puis, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Et puis vient le moment de la formation, et c'était vraiment un moment assez sympa, en vrai. Mais je posais parfois des questions qui pouvaient faire sourire. Par exemple, je me souviens qu'un brigadier nous avait fait une leçon sur la loi, et il nous avait expliqué qu'il ne fallait pas voler parce que la loi l'interdisait. Et je lui disais, d'accord, mais si par exemple dans le cas de Robin des Bois, la morale c'est que parfois il est légitime de voler aux riches. Je dis le mot Robin des Bois, et forcément ça déclenche le rire dans la salle, c'est un peu hors de propos, quoi. C'est pas la question, on n'est pas là pour philosopher sur la morale, enfin sur le vol en soi, quoi. Mais quand même, je m'étais posé la question. Et il y avait peu de place à la réflexion, en fait. Ça n'intéressait personne. Et donc oui, je me sentais pas comme les autres, mais ça m'allait, en fait. Moi, je me disais que j'allais faire mon travail, que j'allais être bien. Et puis vient la fin de la formation. Et j'étais plutôt bien classé, donc je décide, parmi d'autres choix, d'aller dans la brigade des réseaux ferrés. Et donc je suis affecté à la gare du Nord. Premier jour, bon, déjà beaucoup de fierté, en fait, de marcher avec les Rangers... Et puis je me suis dit, allez, on va y aller, quoi. Ça y est, ça, les portes s'ouvrent, quoi. Donc, les portes s'ouvrent, mais elles se sont ouvertes sur quelque chose qui m'a surpris, en fait. Les premiers jours, je me disais, il y a un problème, en fait. Je me suis dit, je me suis trompé d'endroit. Enfin, c'est pas ça ce qu'on m'a vendu, en fait. Je me suis fait avoir, quoi. Alors, il y avait des 6h30 du matin, il y avait... les SDF à déloger. Mais pareil, enfin, quel intérêt d'aller déloger des SDF, quoi. Qui dorment dans la gare et... c'est ridicule, on va pas aller donner des coups de pied dans les chaussures d'un SDF pour lui dire de se réveiller parce qu'il est 6h30 et parce que la classe moyenne commence à bosser. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y avait aussi les contrôles au portique RATP. Voilà, il y a des gens qui fraudent et puis on les met sur le côté, on fait un contrôle d'identité, puis on les fait sortir de la gare. Ça fait pitié, quoi. Franchement, pourquoi faire, quoi. Enfin, moi, je suis jeune, j'ai envie qu'on échange, j'ai envie qu'on fasse du réseau, qu'il y ait du travail en coopération. Dans la gare du Nord, il y a tellement de choses à faire qui seraient bénéfiques. Puis au fur et à mesure où le temps passe, je me dis, rien ne s'arrange. Dans ma brigade, qui était majoritairement présent, c'était des personnes qui avaient plus la niaque, quoi. Elles y croyaient plus en leur métier. Elles avaient plus la fougue de la jeunesse que moi j'avais, en fait. Et eux, ils en sont plus au rêve, en fait. Et moi, j'arrive, c'est presque insolent, en fait, pour eux. Concrètement, bah, c'est le fait de rester dans les locaux, c'est le fait de faire des stratégies pour arriver à prendre des pauses. Il y a une pratique qui s'appelle le shoot de plainte. Ça consiste à trouver un prétexte pour ne pas accepter de prendre une plainte. C'est un vrai sport, hein. Et s'ils prennent pas de plainte, c'est parce qu'ils veulent pas travailler, en fait, ils veulent pas prendre le temps de s'installer devant un ordinateur, d'écouter quelqu'un parler, de faire les procédures. Donc sur le moment, j'ai de l'amertume en fait. Je me dis, mais pourquoi ils agissent comme ça? Le métier, il est important. On a une responsabilité. Il faut qu'on fasse les choses. À 6h30, prise de service, bah on sort. Enfin, voilà. Enfin, allez, on se met au boulot, quoi. Je leur dis pas comme ça, mais c'est mon ressenti. Voilà, manque d'envie. Bon, comment on fait, quoi? Comment on fait à partir de là? Bah, on compense. J'ai vu des choses qui m'ont marqué, mais c'est toujours fait de manière entre guillemets intelligente. C'est-à-dire que c'est toujours à la limite en fait. Un soir, on sortait du commissariat, on avait pris un ou deux verres, on était pompettes, vraiment pas plus. Et il y a un collègue qui voit un SDF, on est en civil à ce moment-là, qui voit un SDF par terre, et puis il racle un molar, il lui crache dessus. Et je me souviens qu'il y a un de mes collègues aussi, on contrôlait de temps en temps donc, les petites roms. Et elles avaient souvent beaucoup de pièces sur elles, et un de mes collègues se servait une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Une idéologie raciste, quoi. Une idéologie qui vient en continuité justifier leur action. Enfin, il y a des références à Marine Le Pen qui sont constantes. Ils ont la sensation que quelqu'un de dur, quelqu'un de sérieux au pouvoir, quelqu'un qui prendrait vraiment les choses en main, qui a conscience des difficultés, arrangerait leurs problèmes. Moi, personnellement, à ce moment-là, je suis choqué, mais je dis rien, je dénonce pas, je fais comme les autres, je me dis que ça fait partie du paysage, quoi. Ils sentaient que je ne deviendrais jamais comme eux, mais ce qui nous a permis de survivre, je pense à eux comme à moi, c'était que moi, j'étais quand même en train de devenir un peu comme eux. Quand moi, je me mets à me poser des questions sur... peut-être qu'il y a une partie de la population qui est plus violente qu'une autre, et peut-être que c'est lié à leur couleur de peau, à leur éducation, peut-être que c'est logique. Et donc oui, moi je commence à me poser des questions, et puis au niveau de la violence, je commence à être irrespectueux moi aussi. Je commence à mal parler aux gens, je commence à avoir moins de patience, à être irritable. Mais bon, quoi faire d'autre, quoi? Quoi faire d'autre quand tous les jours on est dans la noirceur, quoi? Quand autour de nous, tout pue, quoi. Tout est atroce. Qu'est-ce qu'on en fait, ça? Alors, j'ai bien conscience que ça, c'est mon vécu subjectif d'une brigade pendant un an, pendant une époque, à la gare du Nord. Mais en fait, il y a eu des moments différents. Il y a une fois où on a trouvé un enfant qui était seul, je crois, qui avait été récupéré par une boulangerie de la gare. Donc, on l'emmène au commissariat. Et on le garde un petit peu, et puis on retrouve sa grand-mère. Sa grand-mère rentre dans le commissariat et elle fond en larmes, elle retrouve son petit, son cœur fond, quoi. On a toute la tendresse humaine qui explose dans le commissariat, le lieu le plus appauvri en amour du monde, quoi. Et à ce moment-là, ben, on peut pas esquiver ça, on peut pas faire de blagues, en fait, on est pris au dépourvu, quoi. Normalement, c'est de la violence, donc la violence, on sait faire. Mais là, c'est de l'amour, quoi. Comment on est censé l'accueillir? Donc on voit les yeux qui s'humidifient, on voit les plus durs qui cèdent, quoi. Ils peuvent pas l'encaisser ce moment, et donc il y en a qui sortent, il y en a qui vont à l'arrière du commissariat, il y en a qui essayent de montrer bonne figure, mais on sent qu'ils sont touchés par tout cet amour. Moi, j'ai pas réussi à me faire d'amis en fait dans cette brigade. Et j'ai gardé des amis à l'extérieur, des amis proches, hein, des amis de longue date, des gens sur qui je peux compter, avec qui je peux partager. Et puis une fois, on était en soirée, et là, on voit deux jeunes qui se mettent à courir, et quelqu'un, une troisième personne, qui derrière eux crie « au voleur ». Et donc là, bah, c'était vers le 7e, 8e mois en service. Et on se met à courir après les voleurs. J'emmène mes amis, je leur dis ah, allez, on y va, etc. Et donc on court après les deux gars, et puis on en rattrape un. Et puis là, je fais mon travail de policier, quoi, contrôle d'identité. Et puis à ce moment-là, je suis en civil avec mes amis, mais j'ai ma deuxième peau qui est avec moi. Et donc là, j'enfile la casquette du type irrespectueux, donc je lui parle mal. Concrètement, c'est des tons secs, c'est lui couper la parole, c'est tourner en dérision ce qu'il dit. Et puis il a une fiche, J'appelle la radio, je le passe au fichier, il est recherché pour être un mineur en fugue. Et puis à ce moment-là, j'ai beau être avec mes amis, bah, allez, c'est parti, c'est une affaire, c'est important, ça a du sens. Il faut le ramener dans sa famille ou là où il était. Mais non. Là, j'ai déjà changé à ce moment-là. J'entends Fish, je me dis, ah ouais, Fish Mike, Fish mineur en fugue. Je me dis, ah non, je suis avec mes amis, puis ça sert à rien. Ok, bon, bah, merci la radio, je vous rappelle. Parce que normalement, quand la fiche est annoncée, c'est interpellation directe, mais bon, on s'arrange, quoi. Et donc, je dis au garçon, je sais pas, il devait avoir 15 ans. Je baragouine un truc de flic, genre, tu fais attention à toi, un truc un peu intimidant. Et je lui dis, allez, c'est bon, casse-toi. Et puis mes amis sont à côté, quoi, mais je suis pas avec mes collègues, je suis avec mes amis, là. Et donc ça passe pas, en fait, mais... Ils sont pas compris. Juste, ils ont dit, mais pourquoi tu lui as parlé comme ça, en fait? Et je me suis trouvé con parce que je pouvais pas botter en touche, c'était mes potes et j'avais pas de réponse, quoi. En fait, je sais pas si j'ai un déclic au moment où je commence à devenir violent et quand je commence à devenir raciste, mais au bout d'un moment, je me dis, non, mais ma vie, ça peut pas être ça. Faut que je fasse autre chose, quoi. Faut que je m'en aille. J'en peux plus. Et puis je pars, très content. Mon esprit, il respire, quoi. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que je suis cassé à ce moment-là. Je vais pas faire semblant que c'est tout rose. C'est qu'au fond de moi, c'est noir, quoi. Je pense que je frôle la dépression, je sais pas, mais je suis pas bien, quoi. En fait, ça prend du temps de se défaire de ses illusions, déjà. Ça prend du temps de s'expliquer pourquoi autant de violence, pourquoi autant condensé. On met du temps à se remettre du fait de cette plie en deux pour arriver à convenir, à se dire ça va marcher, à forcer, en fait. C'est ça. Donc on met du temps à se remettre de s'être trompé à ce point-là. Aujourd'hui, je garde un goût amer. Pas tant contre mes collègues, mais par contre contre le système. J'ai de la rancœur profonde contre cette machine à broyer les hommes. Et voilà, ça me dégoûte, en fait. Et je souhaite à tous les policiers qui ont des difficultés, même s'ils veulent rester policiers, qu'ils restent policiers, mais essayez de trouver un moyen d'en parler, quoi. Trouvez un moyen, écrivez-le quelque part, faites un blog anonyme, passez un coup de téléphone... Laissez pas ça en suspens, en fait, c'est trop important.
C'était La police, tu l'aimes ou tu la quittes, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Yann Persoglis, à Nicolas Garnier, à Marc Lamola et à Alexandre Langlois. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.